Bonjour, voilà, on se retrouve pour cette nouvelle édition hebdomadaire des carnets de Comaguerre, en compagnie de Roselyne, qui est dans la cabine technique et qui s'affaire, et puis de d'Abib, que je retrouve avec plaisir au micro.
Merci.
Voilà. Comme toujours, beaucoup de choses à commenter. Je vais commencer par quelque chose qui relève un peu, en fait, pas de la farce, parce que c'est très très sérieux, mais en même temps, le ton et les proportions que ça a pris méritent d'être relatés. Il s'agit d'un monsieur que vous ne voyez peut-être pas forcément sur les écrans, mais qui s'appelle monsieur Lu Shai, qui est l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Paris en poste. C'est un monsieur qui, d'abord, y est là depuis un certain temps, qui s'exprime très bien en français et qui, donc, de ce fait, à l'occasion, est interviewé sur des chaînes de télévision, puisqu'on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui discute, qui sait répondre, qui maîtrise son sujet, qui est un excellent diplomate formé à la chinoise, donc qui sait de quoi il parle. Et donc, l'affaire est venue d'une interview qui a été faite, je crois que c'était sur BFM TV, il me semble, et le journaliste qui était là, qui l'interrogeait, qui s'appelle Monsieur Darius Rochebain, lui pose la question suivante. Est-ce qu'à vos yeux, la Crimée, c'est l'Ukraine? Alors vous voyez tout de suite le piège. Hein, dans un moment où on dit que le gouvernement de Kiev et les États-Unis et tout le monde dit qu'il faut que la Crimée soit rendue à l'Ukraine, etc. Ah. Bon, donc la question était chaude. Elle était volontairement chaude. Ça fait partie du travail classique des journalistes qui essayent un peu de mettre en difficulté leur interlocuteur. Alors M. Lu Shai, qui donc, je vous dis, a du métier, a répondu d'une façon très simple. Il a dit « Cela dépend de comment on perçoit le problème ». Et il a ajouté « Il y a l'histoire ». Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que la Crimée, à la suite d'un référendum à 97%, décide de rentrer dans la Fédération de Russie, il y a toute une histoire. L'histoire de la Crimée n'a pas commencé en 2014, pas plus qu'elle a commencé en 1991. C'est ça qu'il dit. Il y a l'histoire, c'est tout. La Crimée était tout d'abord, au début, à la Russie. Donc c'était partie de la Fédération russe, bon, et même de l'URSS. Et il ajoute ce qui est la simple vérité historique, sans aller plus loin, donc il ne remonte pas à 50 000 ans, hein, il remonte au milieu du XXe siècle, et il dit « C'est Khrouchtchev qui a offert la Crimée à l'Ukraine à l'époque de l'Union soviétique en 1954 ». Là, le fait historique est réel, et j'insiste sur le fait, c'est Khrouchtchev qui a offert la Crimée. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a lui, alors Khrouchtchev, je le rappelle à l'époque, est le premier secrétaire du Parti communiste soviétique. Il est donc à la tête de l'État soviétique. Il est d'origine lui-même, il est né en Ukraine, c'est connu. Et un beau jour, il arrive dans un organe dirigeant de l'Union soviétique et il dit « on pourrait mettre la Crimée dans l'Ukraine ». Il n'y a pas eu de débat avant, il n'y a pas de débat pendant. Et donc, d'un trait de plume, la Crimée se trouve basculée de la Russie, qui est un membre de la Fédération de l'URSS, à l'Ukraine. Ça n'agite pas les foules. Ça n'agite pas les foules, puisque de toute façon, on a affaire à un État unifié qui s'appelle l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, où donc il y a des frontières entre les républiques. Mais tout ça, c'est comme nous, les frontières entre les départements, un petit peu, ou entre les régions. On dirait, ben oui, l'Occitanie, ça s'arrête le long du Rhône à Arles. Mais en fait, si on la déplaçait un peu, ça ne serait pas dramatique. Alors il y a des limites géographiques classiques. Un fleuve, par exemple, c'est une limite classique. On le voit pour l'Alsace avec le Rhin, etc. Et puis il y a des limites... Bon, on trace un peu au milieu des collines, on dit là c'est la limite, mais ça n'a pas d'incidence, c'est-à-dire on vit exactement de la même façon dans la Crimée d'avant 54 que dans la Crimée d'après 54. On est toujours dans l'URSS sous un régime socialiste gouverné depuis le centre, depuis Moscou, avec une armée soviétique, une administration soviétique et tout. Donc c'est un détail de l'histoire. Alors on ne sait même pas pourquoi Khrouchtchev l'a fait. Si ce n'est même, enfin, peut-être à cause de ses origines ukrainiennes, pour dire qu'il aimait bien aller au bord de la mer, vous savez, le bord de mer de la Crimée, c'est un peu la Méditerranée soviétique, c'est la plage pour tous les Russes, y compris s'ils viennent du fin fond de la Sibérie, la Crimée, c'est le soleil, c'est les palmiers, hein, c'est l'exotisme presque à l'intérieur de la Fédération russe. C'est tout, donc ça ne va pas plus loin que ça. Et donc ce que dit M. Lu Shai, c'est dire, ben, effectivement, un beau jour, un beau matin, M. Khrouchtchev a dit « Allez, on va bouger la Crimée, on va la faire passer d'un côté à l'autre ». Ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet concret sur la vie de tous les gens. C'est la même législation, c'est la même parti qui gouverne, etc. C'est la même armée. Enfin, voilà, n'insistons pas, c'est l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Bon. Et alors après, ça le pousse à poser la question des limites, qui ne sont pas des frontières. Dans le cas donc, de 54, il ne s'agit pas d'une frontière. C'est un découpage, comme le découpage chez nous entre les départements ou les régions. Si on le bouge un petit peu ici ou là, ce n'est pas dramatique, ça ne change rien. C'est un État unifié, la législation est la même partout, etc. Bon. Alors il en vient un peu plus loin à une question un peu plus fondamentale. Et il ajoute, et c'est là que ça a vraiment mis le feu au bout. Parce que ça, tout le monde, tous ceux qui voulaient le savoir le savaient, on l'a dit, redit, répété. Alors il y a ceux qui disent, oui, puisque ça a été décidé comme ça en 54, on ne peut pas le remettre en question. Ben, si, on peut le remettre en question d'une seule façon, qui est conforme à la charte de l'ONU, c'est-à-dire par l'autodétermination de la population. Si la population criméenne, en 2014, a décidé à 97% de demander son rattachement à la Russie, il n'y avait aucune raison de s'y opposer.
C'est un peu comme le Polisario. Hein.
Oui, absolument.
On demandait un référendum.
Exactement. Et là, le référendum a eu lieu, il a donné un résultat tout à fait clair, et les Criméens ont repris leur vie en étant, se sentant un peu plus chez eux, puisqu'ils ne se sentaient pas trop chez eux dans l'Ukraine indépendante d'après 91. Et puis à partir de ça, M. Louchaï pousse le raisonnement un peu plus loin. Et c'est là que ça fait trembler les murs diplomatiques. Et il dit... Alors, je vous lis la phrase. « Les pays de l'ex-Union soviétique n'ont pas le statut effectif dans le droit international parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut de pays souverain. » Alors là, ça se met à grincer. Je relis les pays de l'ex-Union soviétique. Donc, on sait l'Ukraine, le Bélarus, le Kazakhstan, vous connaissez tous ces noms-là, n'ont pas le statut effectif dans le droit international parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut de pays souverain. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il dit, c'est qu'au moment où l'URSS se dissout, et je vais revenir sur les conditions de la dissolution de l'URSS, les limites qui ont été tracées entre les membres, les morceaux, les provinces de l'Union soviétique sont ce qu'ils sont. Les frontières ont été tracées. Je reviendrai sur quelques frontières qui sont assez étonnantes et assez cocasses. Bon, personne ne songe à dire il faut vérifier si toutes les frontières sont bonnes ou sont discutables ou on l'accorde tous les gouvernements de ces nouveaux pays. Bon, donc on les laisse en l'état. Mais il n'y a jamais eu aucun débat là-dessus. C'est-à-dire que c'est comme si nous, je ne sais pas, disons que la région sud, en Provence, disait tout d'un coup « je sors de la République française hein, » et elle disait « mais par contre, les limites entre le Var et les Bouches-du-Rhône, je veux les changer ». Bon, ça les regarderait, hein, mais ça ne serait qu'un héritage d'un découpage qui n'avait pas d'incidence. Il n'y a pas de difficulté à vivre, à habiter dans le Var et à travailler dans les Bouches-du-Rhône ou vice-versa. Bon, c'était ça, les limites dans l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Alors c'était même un peu plus que ça, puisqu'en fait, le territoire avait été découpé de telle façon que toutes les ethnies, car à la différence de la République française, qui est quand même relativement homogène, l'URSS est un très vaste territoire, c'était le plus vaste territoire du monde, et elle est habitée par des dizaines et des dizaines de populations différentes, qu'il fallait faire vivre ensemble. Et donc on avait découpé à peu près pour que chacun s'y retrouve, que les Kazakhs soient au Kazakhstan, que les Ouzbeks soient en Ouzbékistan, etc. Mais c'était pas toujours très très précis, et ça pouvait effectivement poser des problèmes. Je pense à un endroit particulier que les géographes connaissent, qui s'appelle la vallée du Fergana. La Fergana, autour des deux fleuves, donc, qui s'appellent l'Amoursir et l'Amourdaria, c'est un endroit de plaine, avec deux rivières qui coulent, dans un environnement qui est, lui, plutôt désertique et montagneux. Et donc, ce que l'URSS a fait en découpant les républiques qui sont là autour, donc il y a l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, elle a fait en sorte que chacun ait un morceau de plaine et un bout de rivière. Et puis après, chacun a son morceau de montagne et son morceau de steppe. Bon, alors, si vous regardez, alors regardez si vous avez l'amusement de le faire, regardez une carte de ces républiques, donc on appelle les républiques d'Asie de l'Est, autour de la vallée du Fergana, c'est une espèce de puzzle extraordinaire. Mais ça posait pas de problème, ni les Kazakhs ne se sont plaints, ni les Ouzbeks ne se sont plaints, ni les Kirghizes ne se sont plaints, puisque de toute façon, ils étaient dans le même pays, et puis après, chacun avait un morceau de plaine, et chacun avait accès, pouvait aller mettre les pieds dans l'eau de l'amour d'Aria. Bon. C'était ça. Bon. Aujourd'hui, ça pourrait plus de poser problème, mais à l'époque, ça n'en était pas. Et il a rien voulu dire d'autre, c'est-à-dire que ces découpages-là ont été faits, c'était des découpages administratifs, tenant compte d'une réalité beaucoup plus complexe que la nôtre, j'insiste là-dessus, hein, puisqu'il y avait de multiples langages qui ont été unifiés, non pas en les supprimant, et j'insiste aussi là-dessus, mais en disant, il y a un langage unifiant qui est le langage russe, que tout le monde va apprendre dans toutes les écoles de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, mais aucune des langues préexistantes, et il y en a des quantités, j'en ai cité quelques-unes, ne sera éliminée, c'est-à-dire les langues de la région seront apprises et enseignées dans toutes les écoles de la région. Donc un Kazakh continuera à parler Kazakh, il manipulera le russe parce que c'est la langue administrative, un Ouzbek pareil, un Kirghiz pareil, etc. C'est ça la réalité de l'Union soviétique. Alors ça a commencé à faire grincer les diplomates étrangers parce qu'ils ont dit « Qu'est-ce que ça veut dire le découpage ? Le découpage n'est pas bon. » Non, il n'a pas dit autre chose qu'on a transformé des limites administratives entre deux provinces d'un État en limites d'État. Et il dit à juste titre, et là il a tout à fait raison, il n'y a jamais eu de débat en droit international pour savoir si ces limites étaient convenables. Et si même les pays qui se trouvaient définis comme ça par leur périmètre administratif admettaient de l'être en devenant un État indépendant. Alors il n'y a pas eu de débat, donc chacun est resté chez lui, les Ukrainiens sont restés dans les frontières ukrainiennes, les Kazakhs aussi, etc. Mais au fond, et il a raison de le dire, parce qu'il n'y a jamais eu un acte international confirmant que les frontières héritées des républiques socialistes soviétiques du VSS étaient des frontières entre États indépendants. Ça, c'est bon à rappeler. Alors après, tout le monde s'énerve en disant, il dit qu'il ne fallait pas faire comme ça, ça n'a pas été confirmé. Non, ça n'a pas été confirmé, c'est-à-dire qu'il y a eu une acceptation. De fait, et lui, il parle de droit. Hein. En droit, il n'y a pas eu de reconnaissance. En fait, bon, chacun des nouveaux États a dit bon, les limites étaient comme ça, je suis habitué, on les connaît, on garde ça. Hein. Mais effectivement, il n'y a pas eu un moment où, à l'ONU, par exemple, on est arrivé en disant voilà, l'État ukrainien, il est comme ci, comme ça, voilà les frontières, etc. Et on fait valider internationalement. Bon. Tous ces États ont été reconnus dans les limites qui étaient celles d'une province soviétique.
C'est ça.
Il ne dit pas autre chose. Mais alors ça met tout le monde en furie, alors qu'au fond, il n'a pas dit que ces États n'étaient pas légitimes et tout. Il dit au niveau du droit, on s'est contenté d'un à peu près. On prend les frontières entre les régions d'avant et on dit que c'est les frontières des États. Bon, il n'a pas dit autre chose. Mais ça fait beaucoup crier. Et puis, ce qu'il y a de sous-jacent, c'est qu'au fond, on peut dire, si ces États sont restés tels qu'ils sont, après tout, ils ont peut-être de bonnes raisons de dire qu'il faudrait les revoir parce que ce n'est pas satisfaisant. Et c'est ça qui a mis le feu aux poudres pour la question criméenne. Effectivement, les citoyens de la Crimée considèrent qu'ils seraient beaucoup mieux dans la Russie. Eh bien, ils demandent à être rattachés à la Russie, ils votent, ils sont rattachés à la Russie. Alors ça aussi, ça ne se digère pas dans les diplomaties occidentales, puisqu'on ne voulait surtout pas qu'ils soient rattachés. Alors pour une raison qui ne touchait pas. Alors je ne veux pas dire que les Occidentaux, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne se préoccupent du bonheur des 5 millions de Criméens. Mais il se préoccupait beaucoup de l'existence d'une flotte russe sur la mer Noire. Il se préoccupait beaucoup de cette zone climatique très, très privilégiée. Et il se préoccupait beaucoup, surtout, d'un accès, effectivement, de la République russe, la Fédération russe, sur la mer Noire. Parce qu'il faut bien voir, regardez autour de la mer Noire aujourd'hui, si vous faites le compte des pays qui ne sont pas la Russie, il y en a beaucoup. Alors il y a la Russie qui est en gros au milieu avec la Crimée, ça fait un peu plus grand qu'avant. Après vous allez à la Géorgie qui est indépendante depuis la disparition de l'URSS. Après vous allez à la Turquie, qui n'est pas une amie de la Russie, qu'on le sache. Après vous allez arriver à la Bulgarie, qui avant était dans l'Europe de l'Est, mais qui n'y est plus. Après vous allez à la Roumanie, et bien la Roumanie n'est pas non plus. Et après vous allez à l'Ukraine, c'est-à-dire qu'en fait la Russie n'a qu'une toute petite fenêtre sur la mer Noire. Et le fait que la Crimée soit réintégrée, ça n'a pas troublé beaucoup les Ukrainiens, mais ça a surtout troublé les stratèges occidentaux, les États-Unis, en disant effectivement, d'une part, la flotte de guerre russe a une base définitive sur la mer Noire, et puis la Russie a quand même une fenêtre un peu plus large que ce qu'elle avait sur cette mer, qui est stratégique, puisque tous les gens qui sont autour ne sont plus ses amis.
Non.
Parce qu'avant, revenons, à part la Turquie qui, dès 1952, était dans l'OTAN, jusqu'à une période très très récente, tous les riverains de la mer Noire étaient des amis de l'URSS. Et donc on passait d'une situation où on était entouré d'amis, c'était le pacte de Varsovie, c'était Russie, Bulgarie, Roumanie, à une situation où la Russie se trouve toute seule. Elle l'est encore. C'est ça qu'il faut voir. Deuxième chose qui mérite d'être dite, il y a la question de la légalité des nouveaux États créés. Et là, je vais revenir sur un point. Alors, je ne sais pas si j'interprète peut-être ce que M. l'ambassadeur a voulu dire. Mais il faut se rappeler de la façon dont l'URSS s'est dissoute. Alors, on l'a déjà dit à cette antenne, mais il s'est passé quand même un phénomène assez étonnant. C'est que au mois, donc, on est au printemps 1990, que je ne dise pas de bêtises, et donc il y a un référendum qui est organisé par la direction soviétique dans toutes les républiques de l'ex-Union soviétique pour dire « Est-ce que vous voulez la dissolution de l'URSS ?» La majorité des électeurs, très large, c'est plus de 70%. Alors, il y a des variations selon les républiques, mais enfin, la majorité des électeurs soviétiques se prononce pour le maintien de l'URSS. Là, c'est un jugement très clair, et ça, c'est l'expression de la population, par un vote. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a trois personnes, je dis bien, le président Eltsine pour la Russie, le président Kravchuk pour l'Ukraine, et le président de l'époque du Bélarus, qui n'était pas M. Loukachenko, qui l'a remplacé ensuite, qui disent « Non, non, on se dissout ». Et donc vous avez, alors c'est un face-à-face très très intéressant du point du droit international, vous avez trois personnes qui sont trois chefs de nouveaux États qui en fait expriment exactement le contraire de ce que la majorité de la population soviétique a exprimé quelques mois plus tôt. Et on peut se dire, après tout, quel est le poids relatif de ces trois personnes et de leur signature par rapport au vote de 70% de la population soviétique ? Alors ça, je pense pas qu'il ait... Enfin, je suis sûr qu'il le sait, mais il n'a pas porté le débat là-dessus. Mais ce débat reste actuel. Le débat reste tellement actuel qu'aujourd'hui, dans la population de la Fédération russe, il y a des gens qui font référence à ce référendum en disant « on nous a volé notre pays ». Et il y a des gens qui font campagne en disant « il faut revenir aux frontières » puisqu'au fond, la population n'a jamais demandé à ce que nous éclations en petits morceaux. Et surtout pas que trois personnes... inspiré par on devine un peu qui, disent ben « c'est fini, on fait tout sauter ». Alors, ils ont eu le geste, bien sûr, mais c'est un geste, et il faut le voir avec les limites qu'il a, de dire « à la place, on fait une communauté d'États indépendants », qui s'appelle la CEI, qui existe encore sur le papier et qui, en fait, ne sert plus à rien. Alors, c'est une espèce de réunion de famille, vous savez, les réunions de famille où on fait venir l'oncle d'Amérique qui est grognon, la vieille cousine qui a de la moustache, etc. Et où on dit, bon, on les réunit parce que tous les ans, pour Noël, on met tout le monde autour de la table, mais finalement, au bout d'une demi-heure, on s'engueule. Hein, c'est à peu près ça, les réunions de la communauté des États indépendants. Bon, ben, alors, donc ça existe toujours. Je sais que c'est le rite du repas de famille, j'allais dire, est maintenu, mais ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet. Et vous pouvez avoir autour de cette table des gens comme le président de l'Azerbaïdjan qui est en train de bombarder son voisin arménien qui fait partie de la même communauté des États indépendants. La communauté, il n'y en a pas. Hein, puisqu'on est dans la même communauté, on est autour de la table et moi, je te bombarde tous les matins. Hein, et tu essayes de te défendre comme tu peux. C'est ça, la CEI. Donc, c'est une espèce d'histoire de famille bizarre, mais ça n'a pas de poids politique. Voilà, j'en ai fini avec M. Louchaï. Alors, j'en ai pas tout à fait fini parce qu'il faut savoir qu'à la suite de ses propos, il y a eu des cris d'orfraie et il y a même une campagne maintenant pour demander à ce qu'on le renvoie à ses études diplomatiques à Pékin parce que décidément, ce monsieur est bien impertinent et met beaucoup les pieds dans le plat, ce qui n'est pas habituel chez les diplomates. Alors, il faut savoir aussi, alors très vite, je précise quand même que l'ambassade de Chine à Paris a tout de suite fait un communiqué en disant, là, il s'agit de propos tenus devant un journaliste devant des caméras de télévision. C'est pas la doctrine politique de la République populaire chinoise qui s'exprime. C'est pas un texte argumenté, construit, etc. C'est simplement un propos, une réponse à un journaliste en quelques mots. En quelques mots, vous avez bien entendu, j'ai lu les phrases de monsieur l'ambassadeur. Donc, ne nous formalisons pas, ne montez pas sur vos grands chevaux pour ces propos-là. Mais au fond, je retiens que ces propos sont très intéressants, très pertinents, parce qu'ils vont au cœur de quantité de problèmes, y compris celui de la légitimité de la dissolution de l'URSS, qui sont des problèmes qui restent très très importants. C'est pas moi qui le dis, moi ça m'empêche pas de dormir que l'URSS soit dissoute ou pas dissoute, mais je sais que dans la population qui a connu l'URSS et qui en est sortie, il y a beaucoup de gens qui disent que c'était mieux quand on était unis entre nous plutôt que dans ces réunions de famille où on se marche sur les pieds et où on s'insulte. Bon, c'est ça qu'il faut dire. Alors, je sais pas si M. Louchaï sera appelé à d'autres responsabilités. On ne sait pas. Je ne pense pas. Parce qu'au fond, ceux qui veulent bien lire et bien écouter les propos savent très très bien que les réactions diplomatiques excessives sont des tempêtes dans des verres d'eau. C'est-à-dire que ce qu'il dit tient la route et donc on ne pourra pas aller très loin et dire un diplomate qui dit des horreurs, on le renvoie à ses études. Ça veut dire que si on se met à jouer ce petit jeu-là, il y a beaucoup d'ambassadeurs qui vont perdre leur poste. Alors il a l'avantage, je le dis, de bien parler français. Il ne se laisse pas marcher sur les pieds quand on l'interroge, et surtout quand on lui pose une question qui voulait être une question piège en disant « Est-ce que la Crimée, ça fait partie de l'Ukraine ?» Il dit « Ça en fait partie depuis un certain temps, puis avant, ça n'en faisait pas partie. » Voilà, c'est tout. Il ne dit rien d'autre. Hein. Donc pas de quoi sauter au plafond, pas de quoi pousser des hurlements, mais de temps en temps, c'est bien que la Chine dise « Moi, je n'accepte pas qu'on dise un certain nombre de choses. » Alors elle le dit d'une façon un peu crue comme ça, mais elle le dit. Et je vais rattacher ça à d'autres propositions qui sont assez étonnantes aussi. Et par contre, ça ne fera pas jaser beaucoup et ça ne va pas faire pousser des cris. Pourtant, M. Borrell, vous connaissez peut-être M. Borrell, donc, qui est cet Espagnol d'ascendance catalane, pour être très précis, qui est donc l'espèce de ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Enfin, il en a les responsabilités, il a le titre, je ne sais pas quel est le titre, mais c'est vrai. Ce n'est pas Mme von der Leyen. Lui, on lui a dit, tu es en charge des affaires étrangères, donc tu es une espèce de porte-parole de la diplomatie de l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'il vient de dire ? Imaginez, qu'est-ce qu'il vient de dire ? Alors, vous n'allez pas hurler devant vos micros. Eh bien, il vient de dire que les flottes des pays de l'Union européenne devraient aller patrouiller dans le détroit de Taïwan.
Oui, c'est vrai.
Hein ? Il l'a dit. Oui. Il l'a dit. Hein ? Alors, je ne sais pas si le président chinois a fait un arrêt cardiaque quand il a entendu ça, hein, mais il faut bien savoir qu'un monsieur qui dit ça, et tout le monde trouve ça normal, enfin non, la Chine ne trouve pas ça normal, mais un monsieur qui dit ça à tous les pays européens en disant « Moi, ministre des Affaires étrangères de l'Europe, j'invite tous les pays membres de l'Union européenne, donc les 27, à envoyer des flottes de guerre au large de la côte de la République populaire de Chine, je mets un petit peu le feu à la boutique. Hein. » Mais ça, bon, on trouve ça très très normal. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que ça vient après quand même ce sur quoi je me suis arrêté la semaine dernière, c'est-à-dire la visite de M. Emmanuel Macron à Pékin.
À Pékin, ouais.
Parce que lui, et je pense que le discours de Borrell est une réplique furieuse des dirigeants de l'Union européenne, de ceux qui croient la diriger, donc Mme von der Leyen en particulier, peut-être M. Scholz derrière, mais surtout elle. C'est une réplique furieuse à la position de M. Macron à son retour de Pékin, disant, après tout, c'est une affaire qui concerne la Chine et qui ne nous concerne pas très directement, nous, Européens. Alors la réponse est très très claire. M. Macron dit ça ne nous concerne pas très très directement, nous, Européens. Pourquoi s'impliquer dans ce conflit ? Et M. Borrell dit exactement la même chose. Alors regardez comme toutes les conditions sont créées pour que l'Union européenne, sur cette trajectoire, soit en voie d'éclatement. C'est exactement ça, puisque vous avez un monsieur qui est poussé par d'autres, qui tient ce genre de discours. Allez manifester vos intentions belliqueuses vis-à-vis de la République populaire de Chine en envoyant vos vaisseaux de guerre au large de Taïwan. Et un monsieur Macron, président de la République française, qui dit, après tout, est-ce que c'est vraiment nos intérêts européens d'aller nous mêler de ce conflit-là ? Non. Je finis là-dessus en soulignant que M. Louchaï, l'année dernière, donc, avait été aussi interviewé sur le même plateau de BFM TV à propos de la visite de Mme Nancy Pelosi à Taïwan. Et qu'est-ce qu'il avait dit ? Et là, il n'avait pas non plus mâché ses mots. Il avait dit, écoutez, en 1979, quand les États-Unis ont reconnu la République populaire de Chine, vous savez qu'avant, ils disaient que c'était Taïwan et ses 20 millions d'habitants qui représentaient 1,4 milliard de Chinois, il dit, et c'est vrai, et c'est incontestable, et c'est incontesté, et Macron le sait, et tous les autres le savent, il dit, à ce moment-là, les États-Unis ont reconnu que Taïwan était une partie de la Chine, c'était une seule Chine, avec un régime administratif particulier. Il dit « Nous n'avons jamais bougé là-dessus, mais c'était la condition de notre acceptation. La reconnaissance de la République populaire de Chine allait avec la reconnaissance du fait que Taïwan faisait partie de la souveraineté chinoise. Bon. » Il le dit et il a raison de le dire parce qu'on a tendance à le faire oublier. Et dans son discours, dans sa réponse de l'année dernière quand on lui posait la question par rapport à la visite de Mme Nancy Pelosi, il dit « Les États-Unis jouent un drôle de jeu. Un drôle de jeu consiste à dire « Oui, oui, on a signé ça, mais on grignote, on revient un peu dessus, on fait croire qu'on n'est pas trop d'accord. » Enfin, et il appelle ça les rondelles de saucisson. en disant vous découpez le sujet en rondelles de saucisson, et petit à petit, le saucisson disparaît. C'est pas comme ça. Hein. Là, c'est un gros saucisson, donc vous ne laverez pas en entier, vous étoufferez, on ne vous laissera pas faire. C'est ça l'idée de M. Louchagne. Bon, ça, c'est dit pour la Chine. Et puis, je finis sur la Chine, puisque décidément, ce pays occupe beaucoup, beaucoup de place dans la politique internationale, pour dire, alors ça aussi fait la une de la presse, la grande presse à grand budget, la République de Chine est en train de voir la population de l'Inde la dépasser. C'est une affaire de semaine. On est autour de 1,450 milliard d'habitants.
C'est vrai.
Voilà. Et alors, ce qui est assez amusant, et je m'arrête là-dessus, parce que c'est pas qu'amusant, tout d'un coup, un certain nombre de commentateurs disent « Ah ben, c'en est fini de la domination chinoise ». Bon, mais pourquoi ? Comme si la domination venait du fait qu'ils ont beaucoup de bouches à nourrir, qu'ils sont 1,4 milliard, que les autres sont le même nombre. Alors, on a une espèce de match nul sur un terrain de je sais pas quoi, de hockey sur gazon, etc. C'est pas très très sérieux. C'est d'autant moins sérieux que les responsables chinois qui sont exprimés là-dessus, je sais plus qui c'est, peu importe, ont dit « Mais nous, ce qui nous importe, c'est pas tellement le nombre ». Le nombre, on a fait avec, ça n'a pas toujours été facile. On a été obligé de mettre sur pied la politique de l'enfant unique. On a été obligé de trouver un travail pour tout le monde, de trouver la nourriture pour tout le monde en rappelant que la Chine a 8% des terres arables pour 20% de la population mondiale, etc. Bon, on s'est débrouillé pour faire ce qu'on pouvait dans notre pays. Mais le fait qu'on soit le plus nombreux, ce n'est en aucun cas un motif de gloire en quoi que ce soit. Et il dit, et c'est là que c'est très cruel pour l'Inde, mais c'est vrai, il dit, en fait, ce qui compte, c'est ce que ce 1,450 milliard d'habitants est capable de faire ensemble. Et ça pèse très très lourd. Et ça, alors ça peut faire mal à l'Inde, mais ça peut faire mal à l'Inde parce que c'est la vérité indienne, c'est-à-dire ce pays compliqué, plus petit que la Chine en plus, voilà, qui est très très divisé, c'est une république fédérale très très divisée avec des niveaux de politique, des conflits internes, des niveaux de misère, une paysannerie encore très très malheureuse, etc. Ce pays, même avec 1,6 milliard d'habitants, n'est pas tiré d'affaires. Pas du tout. Enfin, il est très très loin même. Alors ça se mesure sur les taux de croissance économique depuis 10 ans, etc. Enfin, tous les indicateurs montrent que c'est pas parce que l'Inde va être le premier État mondial en termes de nombre d'habitants que l'Inde va se trouver en position de leadership mondial. Elle n'en a pas pour l'instant les capacités. Et donc les ministres chinois qui disent « Nous, ce qui compte, c'est ce que font ces 1,4 milliard, s'ils font des choses bien utiles, s'ils progressent, s'ils avancent, etc. Le reste, on n'a pas décidé d'avoir un record de natalité. C'est pas notre problème. Hein. C'est pas notre problème. D'ailleurs, ils s'acheminent et ils savent, la population chinoise est en cours de vieillissement, mais comme les nôtres, j'allais dire. Ouais. Ils savent qu'effectivement, ils sont pas avec des taux de natalité... Des taux de natalité très très élevés, ils ne sont pas en train de s'acheminer vers les 2 milliards d'habitants, hein. Ils sont en train de se stabiliser, peut-être avec une légère décroissance, mais ça n'importe pas. D'ailleurs, de toute façon, une question qui n'est pas la question chinoise, mais une question pour la population humaine, il y a probablement, je ne rentre pas dans ce débat, on pourrait faire une émission entière là-dessus, probablement quelque chose comme une espèce d'optimum de la population, c'est-à-dire que, en tenant compte des ressources naturelles de la planète, des quantités d'eau disponibles, des quantités de terres cultivables disponibles, des quantités de forêts, des quantités de minerais disponibles, il n'est pas évident qu'on puisse dire avec 20 milliards d'habitants sur la Terre, ça marche. On n'en sait rien, hein, mais c'est probable que ça ne marcherait pas. Hein. Donc je ne fais pas le résultat de ce genre de calcul, mais il faut que l'humanité soit consciente qu'elle est face à ce type de questions. Elle n'est pas en train de courir dans une épreuve en disant quel est celui qui aura le plus d'enfants et celui qui gagnera. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est celui d'une humanité entière face à une planète qui a ses limites, qui sont de plus en plus connues et qui doit essayer de trouver un modus vivendi pour tous les habitants de la planète sur cette planète-là. Sans aller, comme M. Musk, envoyer les riches se promener sur la Lune ou sur Mars, qui est une stupidité. Bon. Enfin, ce qui est du délire, tout simplement. Ça, voilà. N'en parlons plus. Ouf, ben j'en ai dit beaucoup là-dessus. Alors, on va fêter un anniversaire. On est un 25 avril, et c'est pas si souvent qu'on fait une émission le 25 avril. Donc, on va entendre la chanson célèbre de la Révolution portugaise qui s'appelle Grandola Vila Morena.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
Voilà, Grândola Vila Morena, et après il dit en portugais Terra de Fraternidade, terre de fraternité. Voilà. Ça, c'est très important. Alors, pourquoi c'est le chant de la révolution du 25 avril 1974 ? Parce que cette révolution a été préparée par un complot. Si, si, les complots, ça existe. Hein, ouais, ça existe puisque, en fait, il y a un certain nombre d'officiers, jeunes pour la plupart, et un peu moins jeunes pour certains, dans toutes les armes, donc marine, aviation, armée de terre, qui décident de renverser le pouvoir dictatorial parce qu'ils en ont marre de la guerre coloniale qu'on leur a fait faire. Ouais. On les a envoyés tuer des Africains en Angola, au Mozambique, en veux-tu, en voilà. Ils ne supportent plus ça. Le pays étouffe, le pays est pauvre parce qu'il soutient cette guerre coloniale. Alors, il n'en a même pas les moyens. Et donc, c'est un complot d'officiers qui décident de faire tomber la dictature. C'est un cas assez rare. Et ils décident de faire tomber la dictature en disant, il suffit, alors, ils connaissent très très bien la situation des différentes unités militaires qui sont dans le pays. Ils savent les régiments ou les bataillons qui sont acquis au coup d'État, puisque c'est quand même un coup d'État, et ils savent ceux qui sont a priori hostiles, au moins ceux dont les responsables, les généraux, les colonels, sont hostiles et voudront sauver la dictature. Bon. Et donc le complot consiste à dire il faut que les unités qui sont dans le complot aillent se mettre devant la porte des autres casernes, des casernes de ceux qui pourraient soutenir encore la dictature, pour leur dire, camarades, hein, ne faites pas ça, hein, et on vous en empêchera, de toute façon on arrive avec nos mitraillettes sur le ventre, hein, c'est fini, on n'en veut plus de la dictature. Bon. Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que toutes les unités qui sont dans le complot vont venir se mettre devant la porte des autres unités militaires qui pourraient éventuellement tenter le bain de sang et sauver la dictature, leur dire « ne faites pas ça, on en a assez, il faut que le pays sorte de la dictature ». Et c'est exactement ce qui se passe. Et alors, quel est le rôle de la chanson ? Le rôle de la chanson, il est capital, puisqu'à un moment donné, donc, la radio centrale a été prise très discrètement par les complotistes. Et donc il y a un officier qui sait qu'à un moment donné, il fera passer cette chanson. Et c'est au moment où cette chanson passe, il est minuit, 1h du matin, passe sur les ondes de la radio, que toutes les unités qui sont dans le complot vont investir dans tout le pays, toutes les casernes où il y a un risque de révolte contre la République, contre le coup d'État. Et c'est ce qui va se passer. C'est effectivement, à partir de cette heure-là, les bataillons vont se mettre aux bons endroits, aux endroits stratégiques. Les forces qui auraient pu tomber dans la répression et soutenir la dictature le comprennent il ne se passe rien. C'est-à-dire que même si à la tête, il y avait tel colonel qui était très très à droite et qui voulait absolument sauver la dictature et tout, les soldats n'ont pas envie d'y aller. Hein, ils ne veulent pas en plus tirer sur leurs copains qui sont venus leur dire on arrête maintenant la dictature. Hein, et donc, il ne se passe rien. C'est-à-dire il n'y a pas un coup de fusil échangé. Ça, c'est exceptionnel dans l'histoire. C'est pour ça que je le raconte, parce que ça n'arrive pas très souvent. Et après, voilà, la République s'installe. Alors, elle va être chaotique. Elle aura de la peine à rester très, très progressiste comme elle est dans ses premiers mois. Jusqu'avant, en gros, ça va durer 2 ans, la révolution portugaise, au sens où on remet tout en question, les lois sociales, les lois agricoles, etc. Ça va durer 2 ans. Et puis, à partir de 1976... L'Occident, disons pour faire simple, et l'OTAN, parce que le Portugal était encore dans l'OTAN, il y était rentré du temps de la dictature. L'OTAN et l'Occident vont tout faire pour qu'effectivement la République portugaise, bon, qui est acquise, mais devienne une République plus tranquille et moins révolutionnaire qu'elle n'a été pendant les années 74 et 75. Ça se passe avec, je le souligne, parce que la France a joué un rôle très très important dans ce retour à droite, c'est-à-dire ce passage à droite de la Révolution portugaise. Les deux acteurs européens principaux de ce retournement politique de la situation s'appellent Helmut Schmidt, le social-démocrate allemand, et Valéry Giscard d'Estaing, le président français. C'est eux qui vont repousser, enfin, dire à la Révolution portugaise, maintenant, bon, la Révolution, c'est fini, vous êtes une République, ça va, on n'en parle plus, hein, il n'y a plus de dictature, mais vous êtes une République un peu comme les autres, une République où le capitalisme et l'OTAN peuvent rester tranquilles chez eux, sur l'ordre. Ce qui est le cas encore du Portugal actuel. C'était bon de le rappeler. Et puis je vais changer un peu de pays pour parler, parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps, pour parler du Soudan. Le Soudan. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez le résumé des faits qui est le résumé télévisuel. Il y a deux armées qui s'affrontent. En fait, c'est oui, bien sûr. Ça, c'est vu de l'extérieur. C'est les premières pages des journaux télévisés. En fait, c'est un peu moins simple que ça.
Bon.
Qui sont ces deux armées? D'abord, il y a une armée officielle, hein, qui est menée par le général qui s'appelle Bouhar, hein, qui est la suite d'un autre, j'y reviendrai. Et puis, il y en a une autre qui sont les forces spéciales qui ont été... Alors, ces forces spéciales, on dit, c'est une espèce de milice qui a servi, puis qui voudrait maintenant rentrer dans l'armée, qu'il faudrait intégrer, mais qui, en fait, a quand même son autonomie. Alors, d'où lui vient cette autonomie? Alors, c'est bon à rappeler. Ça fait partie de l'histoire du Soudan et du Darfour. C'est-à-dire que ces forces spéciales, telles qu'on les appelle maintenant, qui sont dirigées par le monsieur qui s'appelle Dagolo, qui a un surnom, Hamid Diop, bon, étaient des forces qui étaient... C'était des milices. C'était même pas des forces armées. C'était des milices chargées de réprimer la rébellion au Darfour. C'est donc plutôt que le gouvernement de Khartoum réprime la rébellion du Darfour... On avait alimenté ces milices en armement, si et ça, et c'était à eux de tuer les gens pour que la rébellion du Darfour ne débouche pas sur une sécession. Bon, voilà où ils ont acquis leur capacité militaire, c'est-à-dire la répression armée sous forme de milices, sans contrôle, avec toutes les exactions possibles et tout, dans un territoire où il se passait des choses que la République de Khartoum ne voulait pas voir. Ça, c'est très important. En même temps, du fait qu'ils aient beaucoup travaillé là et que pour une partie d'entre eux, ils en soient originaires, ils se sont appropriés, puisqu'il fallait bien qu'ils vivent de quelque chose, et le gouvernement de Khartoum n'était pas très riche. On les aidait un peu financièrement, mais il fallait se payer, comme on dit, sur la bête. Ils sont propriétaires maintenant, et en particulier le général qui commande ces forces spéciales, est propriétaire de la majorité des mines d'or soudanaises.
Ouais.
Hein? Donc c'est le monsieur, alors monsieur Dagolo, hein, ce monsieur des forces spéciales, est l'homme le plus riche du Soudan. Alors on vous dit, ces deux groupes, ces deux armées qui ne s'entendent pas, etc. Il y a d'un côté donc, des gens qui ont une histoire particulière dans la répression d'un mouvement populaire, hein, répression violente et sans beaucoup de contrôle. C'était une milice, ce n'était pas une armée, ce n'était pas l'armée, ni la police, ni la gendarmerie de Khartoum, du Soudan. C'était une milice qui s'est payée sur la bête, qui a beaucoup fait de mal et qui maintenant voudrait se redonner une visibilité et une respectabilité. Bon. C'est ça, son passé, il est là. Sa richesse, elle est toujours là. Hein, monsieur Dagolo, il est toujours l'homme le plus riche du Soudan. Hein, bon, ça, il faut le savoir comme une donnée. Mais il n'y a pas que ça au Soudan. Il n'y a pas que ça au Soudan, il n'y a pas que ces deux forces armées. Il y en a une qui est au pouvoir, et puis l'autre qui voudrait bien partager le pouvoir, mais y compris peut-être prendre la place. Ça, c'est le contexte local. Local, en rappelant quand même que ce Soudan, alors j'ai fait allusion à la sécession ou la tentative de sécession du Darfour qui n'a pas fonctionné, par contre il y a une autre sécession qui a fonctionné, c'est la sécession du Sud-Soudan. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure à propos de rectification de frontières, mais quand à un moment donné, un référendum a eu lieu au Sud-Soudan pour demander aux Sud-Soudanais s'ils voulaient un État indépendant, on n'a pas poussé des hurlements en Occident. Hein, on a trouvé ça tout à fait normal. Oui, on les a même aidés. On a trouvé ça tout à fait normal de dire que cet État devenait indépendant, qu'il avait la bénédiction de l'Occident, qu'il avait la bénédiction d'Israël, qui avait mis beaucoup de moyens dans cette opération, etc. Hein, on a fait une partition sur une base juridique et ethnique, et religieuse et ethnique, en disant le Sud-Soudan, c'est des animistes et des chrétiens, et le Nord-Soudan, c'est des musulmans. Hein. Ouais. Alors qu'en plus, on sait qu'au Soudan, il y a des musulmans chiites, il y a des musulmans sunnites,
des catholiques.
Oui, il y a des catholiques aussi. Bon. Mais j'insiste là-dessus, ça fait écho à ce dont on parlait tout à l'heure pour les frontières de l'URSS. Quand il a été dit que le Sud-Soudan faisait sécession, qu'on a organisé un référendum et qui a effectivement débouché sur la création du Sud-Soudan, personne n'a dit « on ne touche pas les frontières ». Alors j'insiste là-dessus parce qu'il y a tout un discours à propos de l'Ukraine en ce moment qui dit « on ne touche pas les frontières ». Si, on les touche quand effectivement la population est d'accord pour les toucher. C'est ça la règle, le droit des peuples à s'autodéterminer. Bon, ben là, alors, ils avaient été aidés, on le sait, j'ai parlé d'Israël, j'ai parlé des États-Unis, et il s'agissait d'affaiblir ce Soudan. Alors, ce Soudan de l'époque, qui était le Soudan du président Omar al-Bashir, il avait cette particularité, d'abord, qu'il avait succédé à un président soudanais qui était plutôt, j'allais dire, un pro-soviétique, hein, le maréchal Nemeiri, qui avait été formé par les soviétiques et tout, et qui donc avait une culture un peu marxiste. D'ailleurs, il reste au Soudan, on le sait assez peu, un des plus gros partis communistes d'Afrique.
Ouais, c'est vrai.
C'est la suite de cette histoire-là. Bon. Ensuite, donc, Omar al-Bashir arrive au pouvoir et dans les conflits, enfin, dans les positionnements ethnico-religieux qui agitent cette région-là du monde, Omar al-Bashir va plutôt prendre... D'abord, il soutient les Palestiniens comme pratiquement aucun autre régime, par tous les moyens possibles. Hein. Il est plutôt du côté des Iraniens. Hein. Et ça lui est reproché. Et il se méfie plutôt de ses voisins d'en face. Ce que j'appelle les voisins d'en face, je vais en reparler, c'est l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis un peu plus bas. Voilà. Ça c'est une donnée fondamentale. Ce qui se passe, c'est que dans la suite des événements, du fait que le Soudan du Sud se sépare du Soudan du Nord, ça complique un peu la vie parce qu'il se trouve que les gisements pétroliers qui avaient été découverts au Soudan se trouvaient un peu à cheval sur la frontière, donc c'était un motif de conflit permanent. Ça l'est tellement d'ailleurs que le Soudan Sud n'est pas baisé lui-même, il est très très pauvre. C'est un des trois pays les plus pauvres du monde. Hein, c'est une réussite, de ce point de vue-là, la création d'un État comme ça. Bon, et puis, il y a des conflits sur la répartition de la manne pétrolière et là où il y a le pétrole, on essaye de jouer, chacun essaye de jouer avec le tracé de la frontière pour dire le pétrole est chez moi ou il est chez l'autre. Bon. Ça fait partie de la situation soudanaise qu'il faut rappeler. Ensuite, ce Soudan va passer plutôt du côté, enfin c'est à partir de 2016 en gros, il y a une espèce de basculement, c'est-à-dire que à force d'aide financière, de promesses, etc., le Soudan d'Omar el-Béchir, alors il se sent un peu menacé, il menace la Cour pénale internationale, etc., il va plutôt se rapprocher des Saoudiens et des Wahhabites, hein, donc passer plutôt côté sunnite. Hein. Oui, voilà, parce qu'il y a de l'argent, et puis l'Iran, c'est un peu plus loin, c'est plus compliqué. Hein. Voilà. Et donc, voilà, en gros, la situation telle qu'elle est, donc ce pays compliqué qui a été coupé en morceaux, et qui pourrait bien, si on laisse faire, être coupé encore une fois. Parce qu'il est encore assez grand. Il n'est plus le plus grand. Aujourd'hui, c'est l'Algérie qui est le plus grand territoire d'Afrique en termes de superficie. Mais il est assez grand. Et puis, on sait qu'il y a des ressources. Il y a de l'or, la preuve. Il y a du pétrole. Et puis, il y a ce fameux Nil qui est quand même la richesse agricole, nourricière de toute cette grande vallée du Nil dont il occupe, en gros, l'échelon moyen. Qu'est-ce qui peut se passer ? Alors, il peut se passer que peut-être une division supplémentaire affaiblirait encore le potentiel de ce pays. Le potentiel du Soudan est énorme. Hein. Le potentiel du Soudan est énorme. Entre l'Égypte, qui est tout au nord, l'Éthiopie, qui est en train de se ressaisir, puisque j'en dis un mot à cet égard. Ce qui s'est passé, ce qui est plus calme maintenant, enfin on pense qu'on est arrivé à peu près à la stabilité, entre la région du Tigré, le nord de l'Éthiopie, et le gouvernement d'Addis Abeba, c'est qu'il y a eu une tentative, effectivement, de faire éclater l'Éthiopie comme étant indisciplinée par rapport à l'ordre occidental. C'est tout à fait clair. Ça a raté, mais il faut savoir que l'ordre occidental, qui est malmené dans cette région-là du monde et en Afrique, essaye encore de remettre la mécanique en route d'une division supplémentaire et de se fabriquer un petit morceau de Soudan qui lui servirait de base pour toute l'Afrique. C'est bien ça qui est en jeu. Comment, alors, pourquoi justifier mon propos ? Ben c'est très simple, la représentation diplomatique des États-Unis à Khartoum est la plus grosse représentation diplomatique des États-Unis en Afrique et aussi importante que celle qu'il y a à Kiev. Suivez mon regard, comme on dit. Vous avez compris ? Qu'est-ce qu'ils font dans ce pays ? Eh bien, ils préparent la suite. Ils préparent la suite, c'est quoi pour eux ? Alors, c'est très très clair. C'est désormais, la grande majorité des États africains ont plutôt tendance à travailler avec la Russie et avec la Chine. Et il n'y a presque plus personne qui veut travailler avec les États-Unis. Donc, si on arrive à enfoncer, si nous, je parle états-unien, arrivons à enfoncer un coup en prenant un petit bout du Soudan, qui serait l'espèce de point de départ de toutes nos activités pour contrer l'avancée des adversaires, puisque c'est eux les adversaires, sur le continent africain, c'est l'occasion ou jamais. Vous imaginez que ce n'est pas gagné du tout. C'est pas gagné du tout. Et d'ailleurs, le président actuel, le général Bouard, lui, il a très très bien compris la situation. Et quand il a reçu, c'était au mois de février, je crois, le ministre des Affaires étrangères russe, M. Lavrov, il lui a bien fait comprendre qu'il comprenait sa position. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que les intérêts des États-Unis sont défendus par Israël, ça, depuis l'origine. Ils pourraient être défendus par l'Arabie saoudite et par les Émirats arabes unis, ce qui était le cas dans la deuxième période du gouvernement d'Omar al-Bashir. Seulement, le problème, c'est qu'entre-temps, tout ça, c'est bien joli, mais ça arrive un peu après la bataille. Entre-temps, on ne peut pas dire qu'il faut choisir dans cette région-là du monde entre l'Iran et l'Arabie saoudite, puisque précisément, l'Iran et l'Arabie saoudite ne sont plus fâchés. Donc, effectivement, il n'y a pas de raison de diviser le Soudan sur la base d'une partie qui est amie avec l'Iran et l'autre partie qui aurait de bonnes relations avec l'Arabie saoudite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas diviser le Soudan entre les chiites et les sunnites. Ça, c'est un peu hors saison maintenant. C'est passé, ce genre de division. Alors, c'est la dernière tentative, à mon sens, pour que les États-Unis arrivent encore à utiliser ce système de découpage, ce système de division entre populations pour dire on les divise sur une base religieuse. Cette base religieuse fonctionne plus, ou elle fonctionne encore parce que l'accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite est encore trop frais. Mais de fait, il est plus possible d'utiliser cette division dans le monde musulman pour dire on divise tous les pays qu'on veut sur cette base-là. Et donc, je pense que le conflit soudanais, on sait qu'il fait beaucoup de morts parce que ces gens-là sont armés, etc., sont formés, sont entraînés, mais ce conflit soudanais arrive un peu tard, c'est-à-dire qu'il ne produira probablement pas les effets qu'on y attend. Il faut le souhaiter. Hein, mais les effets qu'on atteint, c'est tout à fait clair. Éclater le Soudan et garder une base états-unienne, américaine, otanienne, forte dans ce coin-là de l'Afrique, parce qu'il n'y en a plus d'autres. Il y en a plus d'autres parce que l'Égypte vit sa vie. Pour l'Éthiopie, je l'ai dit, c'est raté. C'est raté parce que la révolte du Tigré s'est terminée. Et pour les autres, il n'y a plus aucun endroit où les États-Unis font la loi. C'était le seul dernier endroit où ils pouvaient le faire. Ils avaient tenté le Darfour, ça n'avait pas marché. Là, ils avaient réussi à couper le Soudan du Sud, ça n'avait pas marché. Alors, je n'ai pas raconté l'histoire du Soudan du Sud, mais ça mérite quand même que j'y revienne deux secondes. Ce qui se passe, c'est qu'après 15 ans de guerre civile entre les chrétiens animistes du Sud et les musulmans du Nord, on arrive à un accord pour dire qu'il y aura deux pays, mais il y aura une fédération. Ils seront liés par des accords politiques, et de telle façon que le leader de la rébellion du Sud, qui s'appelle le général Garang, qui a été formé aux États-Unis dans les académies militaires... soit le vice-président du Soudan. C'est-à-dire qu'on fait tout pour qu'il y ait un président à Khartoum, un vice-président qui soit au Soudan du Sud, mais qu'ils s'entendent. Et il se trouve que dès l'instant où ce système est mis en place, donc il y a les deux États, mais avec le vice-président qui est le président du Sud, hein, le général Garang, qu'est-ce qui arrive ? Devinez ce qui arrive. Ben, c'est comme dans un roman de John le Carré. L'hélicoptère de M. Garang s'écrase. Et voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, le Soudan du Sud dit « je ne veux plus avoir affaire avec le Soudan du Nord hein ». C'est là que l'opération politicienne des États-Unis marche. Alors, elle marche sur le dos du peuple soudanais du Sud, hein, qui est pauvre, c'est un des plus, les plus pauvres du monde, sur le dos de leur santé. Enfin voilà, c'est ça la donnée. Il faut savoir qu'au moment où le Soudan du Sud est créé, on lui fabrique une capitale, il faut ça, il n'y a pas, il y a 3 km de routes goudronnées sur le pays. Un pays qui est grand comme la France, 3 km de routes goudronnées. C'est-à-dire on prend des hectares et des milliers d'hectares de misère, on dit ça c'est un État, parce qu'on a décidé de diviser, c'est la division coloniale dans ce qu'elle a de plus classique. Voilà ce que je voulais dire pour le Soudan. Je regarde l'heure, on est dans les temps.
Oui, ça va.
Ça va, ça va. Bon, alors, je n'insiste pas. Alors, dans cette situation donc, politique, diplomatique évolutive, avec ces rapports nouveaux entre l'Iran, l'Arabie saoudite et tout, les Israéliens qui avaient beaucoup misé sur le Soudan, d'abord en organisant la partition du Sud, et puis qui là soutenaient donc le dissident, les forces spéciales, ouais, savent plus trop, j'allais dire, comment on dirait vulgairement, ils savent plus trop où ils habitent. Alors on a apparemment, ce que j'ai essayé de vérifier dans les quotidiens israéliens, le Mossad qui est plutôt du côté du général en chef, et le gouvernement des affaires étrangères qui est plutôt d'autre côté. Mais en fait, ils sont très, 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 très mal à l'aise parce qu'ils ne savent pas de quel côté le vent va tourner, parce qu'ils veulent être dans le sens du bon vent. C'est ça le ça, hein. Donc panique, panique en Israël, qui ne sait pas où est le gagnant futur, difficulté dans les ambassades occidentales, et puis les États-Unis qui ont décidé quand même de rapatrier tout de suite, c'est fait, puisque les conflits... La France aussi, tout le monde rapatrie, mais il y a quand même 16 000 citoyens des États-Unis qui habitent à Khartoum. Ouais. Ce qui est pas, c'est pas simplement 3 personnes qui sont là pour faire du business. C'est un peu plus que ça. Voilà. Donc on en reparlera sûrement, mais c'est un conflit très intéressant. Et puis je vais terminer par vous dire qu'il se passe à New York quelque chose d'assez étonnant, qui est tout à fait dans les règles, puisque vous savez qu'il y a des sessions du Conseil de sécurité et que chaque mois, il y a un pays membre de l'ONU qui préside les séances du Conseil de sécurité.
C'est la Russie.
Il se trouve que ce mois-ci, c'est la Russie. Il se trouve que ce mois-ci, c'est la Russie. Et donc ça a donné l'occasion à M. Lavrov, qui est sur place, et qui se sent un peu isolé parce que sa première manifestation en arrivant à New York au siège des Nations Unies, ça a été de dire « c'est la première fois que ça arrive, mais on a interdit aux journalistes russes qui venaient couvrir la session du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de venir à New York. Ils n'ont pas eu de visa ».
Ouais,
voilà. Voilà. Bon. Alors il a noté, et puis il en a tiré les conclusions que je vais vous lire, qui est la suivante. Il dit, voilà ce qu'il a dit en tant que président du Conseil de sécurité en exercice, il a dit « La minorité occidentale doit bien se comporter et respecter les autres membres de la communauté internationale. » Voilà, c'est ce qu'il a dit. « Appelons un chat, personne n'a autorisé la minorité occidentale à parler au nom de toute l'humanité. » Et il a ajouté « L'Occident doit se comporter décemment et respecter tous les membres de la communauté internationale. » Et il a ajouté, les États-Unis ont détruit la mondialisation, bien qu'ils aient présenté cette dernière comme le plus grand bien de l'humanité. Voilà. Alors on va voir, il a donc un mois pour faire son travail à la tête du Conseil de sécurité, et c'est très très intéressant. Dernière chose que je voulais noter, c'est, ça fait partie de l'évolution de cette, des relations diplomatiques dans l'Asie de l'Ouest, comme on dit, le président de la Syrie, M. Bachar el-Assad, a reçu, et c'est une première, le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, qui s'appelle M. Faisal bin Farhan. Ouais. Et ça aussi, c'est une première, puisqu'il faut savoir que la guerre en Syrie a été financée, instrumentalisée par les monarchies wahhabites, les Saoudiens en premier, les Émiratis en second.
Voilà. Le Qatar surtout aussi.
Et le Qatar. Alors, le Qatar est hors jeu, parce que le Qatar s'est rangé dans un camp, le camp des frères musulmans, qui n'a plus le vent en poupe.
Non.
Donc c'est très important, ça fait partie de ces évolutions. Et donc le conflit du Soudan, qui est très particulier, qui arrive un peu après la bataille, qui arrive dans cette situation diplomatique complètement transformée, est un conflit qui ne peut pas aller très très loin. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à regretter les fusillades, les morts, etc. Mais il ne faut pas tomber dans le panneau d'une crise dramatique. En fait, il y a une grosse instabilité sur le plan politique. Les États-Unis qui essayent, l'Occident qui essaye de sauver sa mise et les plans qu'il avait faits sur le Soudan et qui arrivent probablement après un peu trop tard. Alors, ça pourrait se faire sans mort, c'est pas tout à fait le cas, mais là, on a affaire à deux armées, enfin une armée et puis les forces spéciales qui sont très armées, très entraînées, et donc ça peut durer. Ce qu'il y a derrière, alors, ce qu'il y a derrière, il y a un troisième acteur dans ce conflit soudanais, sur lequel il faut s'arrêter un petit peu, c'est qu'il y a eu, vous savez, en 2019, des manifestations populaires pour demander que l'armée lâche le pouvoir.
Au peuple.
Donc, voilà. Donc, il y a une espèce de troisième camp. Ce troisième camp, alors on pourrait l'appeler, pour faire simple, le camp droit de l'homiste. C'est-à-dire c'est un camp qui est largement inspiré et financé par les droits de l'homiste occidentaux, comme on connaît la musique, hein, qui a eu de l'écho au moment où il a transformé son mouvement, n'a pas abouti. Il est là, mais il n'est pas, au fond, enraciné de façon beaucoup plus puissante que les autres dans la population. Il est la dernière carte présentable du camp occidental, mais il n'est pas très très fort. Et il faut savoir que dans ce pays, donc il a été un peu fabriqué, pas le pays, mais je veux dire, ce camp occidental, ce camp des droits de l'homme a été fabriqué comme ce camp occidental a été fabriqué partout ailleurs dans le monde quand c'était nécessaire. Il n'est pas très très enraciné dans un pays qui est très compliqué, qui est très grand, qui est très vaste, et donc c'est un acteur possible dans une solution politique, mais ce n'est pas un acteur très très puissant. Alors ici, il est évident qu'on nous le montrera comme la solution à tout. Ce n'est pas la solution à tout, puisque l'armée a beaucoup de pouvoir, l'armée au moins le côté du général Bourg, a une vision politique qui est celle d'un pays souverain ayant des amis qui seraient la Russie et la Chine, mais pas dépendants de la Russie et la Chine. Il faut savoir qu'il y a des projets, par exemple, de bases militaires russes à Port-Soudan sur la mer Rouge. Et donc, on a une situation compliquée avec les États-Unis qui ont leur acteur, qui ne représentent pas la totalité de la population, les Saoudiens et les Iraniens qui ne savent plus qui est leur ami, l'Égypte qui voudrait bien que la situation se calme parce que derrière ça, il y a le dernier conflit que je n'ai pas évoqué, qui est le conflit de l'eau du Nil.
Ouais.
Conflit central, puisque vous savez que
l'Éthiopie
est en train de remplir le fameux barrage, le barrage de l'Espérance sur le Nil bleu, et qu'effectivement, toute décision brutale de l'Éthiopie sur l'écoulement des eaux de ce barrage du Nil bleu, qui est le plus gros affluent du Nil, serait préjudiciable à l'agriculture et saoudienne et égyptienne. Et donc là, il y a un conflit potentiel, mais il y a en même temps une espèce de nécessité vitale pour que ces trois pays s'entendent.
Ouais.
Donc ils ont intérêt, le conflit qui a lieu aujourd'hui en Soudan doit se régler en tenant ça comme vision d'avenir. La vision d'avenir, c'est nous sommes les maîtres de la civilisation du Nil telle qu'elle doit se redévelopper, et il faut que nous ayons la capacité de nous entendre entre nous et pas de nous voler d'eau du Nil. Parce que qui vole l'eau à l'autre tue l'autre. C'est tout à fait clair.
Ouais.
Donc c'est ça qu'il faut garder en tête, et c'est ça qui doit être un peu la boussole de ceux qui ne veulent pas qu'on soit un conflit avec des intérêts religieux, ethnicaux et tout. C'est beaucoup plus que ça. On a cette vallée du Nil, je le rappelle, elle a une importance profonde dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que quand les descendants de notre ami Lucie s'en vont vers le reste du monde, ils prennent la vallée du Nil. Ils descendent du haut de l'Éthiopie, et puis de là, ils vont circuler dans le monde et le coloniser. Ça, c'est un axe central pour l'histoire de l'espèce humaine, donc ça doit le rester. Ayons ça en perspective dans nos réflexions sur le Soudan. Voilà ce que je voulais dire. Et puis on en reparlera la semaine prochaine. Je vous dirai deux mots, si on a une minute, sur un conflit extraordinaire. Un conflit qui a lieu dans les services publics et dans les chemins de fer allemands. Alors, il faut savoir qu'il y a des négociations. Il y a des négociations, alors je le dis parce qu'il y a des problèmes de salaire un peu partout en Europe, en France en particulier, en Italie, partout. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la bureaucratie syndicale a réussi à obtenir un accord du patronat de tout le secteur public allemand qui s'engage à donner à tous les salariés de ce groupe-là, plusieurs millions, 3 000 euros de rattrapage pour compenser les effets de l'inflation, la hausse des prix comme partout. Bon. Et à donner en plus, c'est le rattrapage, et puis à donner en plus pour l'année 2024 5,5% d'augmentation de tous les salaires. Bon. C'est pas rien du tout. Le problème, c'est que les revendications des syndicats, quand ils sont arrivés sur la table de négociation, c'était plus 10%. Donc la base des syndicats est en train de dire, nous on a demandé 10 et vous avez signé à 5. Alors bien sûr c'est joli les 3000 euros, on va les prendre puisqu'ils sont promis, c'est une compensation pour nos pertes, mais il est en train de se mettre en place des comités autonomes syndicaux disant que le syndicat a trahi. Hein. Alors on en parlera parce que c'est intéressant de voir ça.
Il ne faut pas oublier que l'usine de casseroles est fermée. Hein.
Oui, oui, l'usine de casseroles est fermée. Voilà, des petites nouvelles sociales. Alors, il faut savoir que cet accord-là et les critiques qu'il y a donnent beaucoup à réfléchir en Italie où les syndicats officiels, les trois syndicats, donc CGIL, UIL et CISL, ne signent rien ou acceptent tout du patronat. C'est donc font que les ouvriers italiens sont beaucoup plus dans la misère que les ouvriers et les employés allemands. Voilà. On en reparlera. Merci Roselyne et à la semaine prochaine.